Alors, nous allons commencer le deuxième panel de ce colloque, panel qui va porter sur les fonctions, les missions du Parlement qui vont un petit peu au-delà de la seule fonction législative stricto sensu, même si on verra qu'il peut y avoir des passerelles. Alors, il s'agit d'un panel qui est quasiment à parité entre juristes et politistes, et oui. Et c'est un panel qui va nous faire aller dans, va nous faire visiter différents parlements, le parlement français, le parlement belge et le parlement libanais. Nous avons hélas une absente en la personne d'Ania Thomas qui, pour des raisons de santé, ne pourra pas présenter son papier qui portait en gros sur les effets de l'européanisation au sein de l'Assemblée nationale et du Bundestag, et comment ces institutions nationales ingèrent en quelque sorte les effets de l'européanisation dans leurs propres normes de fonctionnement. Donc, vous ne l'aurez pas, ce papier, désolé. Mais nous allons suivre peut-être l'ordre, je suppose. Et alors, Rémi Lefebvre, est-ce que vous souhaitez discuter tous les papiers à la suite ?
Tous les papiers à la suite.
À la fin,
voilà.
Ok, d'accord. Donc, on va commencer par les papiers, on va suivre dans l'ordre, donc d'abord les papiers de nos amis juristes. Donc, tout d'abord, le papier de Julien Clarenne qui portera sur les commissions d'enquête en Belgique. Ensuite, le papier de Gilles Toulmonde qui portera sur les parlementaires en mission, donc ce sera au Parlement français. Et enfin, nous aurons donc le papier sur le Parlement libanais. Alors, vous avez 20 minutes pour présentation respective et on vous écoute. Donc, tout d'abord, Julien Clarenne.
C'est gentil, merci. Merci aux organisateurs de ce colloque qui s'est révélé déjà passionnant. Vous constaterez que je n'ai pas de cravate, mais je suis bien juriste. Alors, donc, afin de traiter la question des parlements au-delà de la loi, j'ai choisi, je vous propose aujourd'hui d'examiner un instrument, un des instruments les plus exceptionnels dans la boîte à outils des parlementaires, c'est à savoir le droit d'enquête. Alors, donc, le droit d'enquête entendu en tant qu'instrument dotant le Parlement de pouvoirs d'investigation considérables et afin de récolter des informations destinées à l'exercice des différentes fonctions parlementaires et plus particulièrement de la fonction de contrôle de l'action gouvernementale. Alors, dans le cadre de ce colloque, cet instrument me semble très intéressant parce qu'il est d'une certaine manière un vecteur de réajustement des relations, des rapports entre le Parlement et le gouvernement. Alors, afin de traiter cette question du droit d'enquête en tant que moyen pour le Parlement de réajuster donc ces rapports par rapport au gouvernement, j'ai choisi une perspective belge, non seulement parce que je suis belge, mais parce que le cas me semble intéressant actuellement, étant donné qu'en Belgique, le droit d'enquête fait l'objet d'un regain d'intérêt ces dernières années. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, nous avons plusieurs assemblées parlementaires, 9 au total, dont 8 actuellement sont dotées du droit d'enquête. Mais le droit d'enquête, en tant que tel, a, au début de l'existence de l'État belge, fait l'objet d'un certain désintérêt. Pendant les 150 premières années de l'État belge, le droit d'enquête n'a été activé qu'à 10 reprises. Il y a eu une première vague d'emballement, je dirais, pour le droit d'enquête dans les années 1985, qui a duré une vingtaine d'années. Et cet intérêt pour le droit d'enquête s'est tassé au début des années 2000, pour revenir au devant de la scène tout récemment, en 2016-2017, on a connu pas moins de 6 commissions d'enquête, niveau fédéral et fédéré confondu. Alors, parmi les commissions d'enquête qui ont occupé le devant de la scène médiatique et qui sont assez connues, nous avons notamment la commission d'enquête sur les attentats terroristes du 22 mars 2016 à Bruxelles, la commission sur les Panama Papers, qui d'ailleurs, l'affaire des Panama Papers a fait l'objet de plusieurs enquêtes parlementaires dans d'autres États et au niveau européen également, et aussi la commission Kazakhgate, qui a notamment des liens avec la France, et au cours de laquelle M. Claude Guéant a d'ailleurs été auditionné. Donc on voit un certain regain d'intérêt pour le droit d'enquête et un regain d'intérêt particulièrement intéressant dès lors qu'il suppose que la majorité et l'opposition se sont rejointes au niveau de... donc qui se sont retrouvées pour la création de ces différentes commissions d'enquête. J'y reviendrai. Mais donc ce constat du regain d'intérêt pour le droit d'enquête, de la résurgence des commissions d'enquête au niveau belge, suscite la question de savoir en quoi ce droit d'enquête pourrait constituer un levier juridique d'émancipation des assemblées par rapport à la volonté de l'exécutif. Alors, afin de vous proposer quelques éléments de réponse, je distinguerai les trois phases principale du processus d'investigation, la phase du commencement d'une commission d'enquête, la phase du déroulement de l'enquête parlementaire et la phase de sa clôture. Mais à titre préalable, je voudrais formuler une condition qui me paraît une condition préalable pour permettre cet affranchissement possible des parlements et plus spécifiquement même de la majorité parlementaire par rapport à la volonté de l'exécutif et aux intérêts de l'exécutif, c'est précisément la marginalisation de l'exécutif aux différents stades de ce processus d'investigation. L'exécutif n'a pas vraiment d'emprise dans le contexte de ce processus d'investigation parlementaire. Alors, commençons avec donc la phase numéro 1, je dirais, la phase donc de la création de la commission d'enquête parlementaire. Au niveau belge, c'est intéressant de constater qu'une commission d'enquête ne peut voir le jour sans un soutien de la majorité. Il n'y a pas, comme en France ni en Allemagne, de droit pour l'opposition de créer une commission d'enquête. Pourtant, on constate naturellement que l'opposition est souvent à la manœuvre, à l'initiative pour proposer la création de commissions d'enquête. Et donc la plupart des commissions d'enquête qui ont eu cours dans les années 2016-2017, lors de cette vague de commissions d'enquête, sont des commissions qui sont de l'initiative de l'opposition. Et donc on voit ce phénomène intéressant où la majorité a parfois jugé préférable de reconnaître la plus-value, d'accepter plutôt la création d'une commission d'enquête, malgré le fait que potentiellement cette commission d'enquête, cette enquête parlementaire pouvait affecter la réputation du gouvernement. Alors, il y a évidemment d'autres cas de figure que celui d'une proposition la part de l'opposition, d'une proposition d'une commission d'enquête par l'opposition qui serait acceptée par la majorité. On a des commissions qui sont de l'initiative de la majorité. Mais on a un cas encore plus intéressant, c'est celui d'une proposition de création d'une commission d'enquête par l'opposition qui serait dans un premier temps rejetée par la majorité, mais qui va dans un second temps, quelques mois après, être récupéré par la majorité et reproposé par la majorité à l'Assemblée plénière. Et donc, on verra alors l'émergence d'une enquête parlementaire qui est en fait directement le résultat d'une proposition de la majorité, mais qui, en amont, a été proposée par l'opposition. Et ce cas de figure est particulièrement intéressant parce qu'il montre une réticence naturelle, initiale de la part de la majorité parlementaire pour l'enquête parlementaire, mais une certaine contrainte par l'effet de l'absence de mécanismes comparables, contrainte donc de créer une commission d'enquête. Il y a évidemment aussi la pression médiatique qui peut jouer en l'espèce. Un autre élément intéressant permettant de créer une volonté parlementaire autonome au stade du commencement, c'est celui de l'absence de limites matérielles fortes dans la définition de l'objet d'enquête. Et donc on voit une certaine latitude dans le chef des parlementaires pour définir l'objet d'investigation, l'objet d'une enquête parlementaire. Cela a quoi pour effet ? Cela a pour effet qu'il y a peu de motifs juridiques d'un refus pour la majorité de refuser la création d'une enquête parlementaire. Bien entendu, cela reste une décision d'opportunité, mais on voit un certain malaise lorsqu'il n'y a pas moyen de justifier le refus par des motifs juridiques. Alors, au stade de déroulement de l'enquête, ce stade est le plus intéressant en termes de capacité pour le Parlement de devenir plus autonome par rapport à la volonté de l'exécutif et donc de travailler véritablement de manière autonome. C'est celui de la possibilité pour les parlementaires d'une commission d'enquête la possibilité de recourir à des pouvoirs d'investigation considérables. Et au niveau belge, la loi belge reconnaît aux parlementaires d'une commission d'enquête la possibilité d'utiliser les mesures d'instruction prévues dans le code d'instruction criminelle. Cela implique, comme ailleurs, de pouvoir convoquer des témoins à comparaître, de pouvoir demander la communication de certains dossiers, mais plus encore de procéder à des saisies, évidemment moyennant l'intervention d'un magistrat, de procéder à des saisies et perquisitions, de procéder à des écoutes téléphoniques ou encore de consulter des dossiers judiciaires. Donc on voit des pouvoirs d'investigation qui sont en fait des pouvoirs ici d'instruction dont les commissions d'enquête peuvent sont dotées et auxquelles elles peuvent avoir recours. Par rapport à l'utilisation de ces pouvoirs d'instruction, c'est intéressant de constater qu'ils ne servent pas seulement à récolter l'information, mais qu'ils peuvent servir parfois à lutter contre des tentatives d'obstruction dans le chef de tel ou tel protagoniste dans le cadre de l'affaire qui serait investiguée. Et à titre d'anecdote, en 2017, dans la commission d'enquête sur l'intercommunal Publifine, une commission régionale créée par le Parlement wallon, la commission d'enquête avait mandaté son magistrat de faire vérifier l'état de santé d'un des témoins qui avait été convoqué par la commission d'enquête et qui avait délivré un certificat médical pour justifier son absence. Et donc un magistrat a demandé à un médecin légiste d'aller voir si la personne en question était bel et bien malade. On voit que en l'occurrence le recours au pouvoir d'instruction dans ce cas-ci n'est pas directement destiné à obtenir de l'information, mais davantage à assurer l'autonomie de la commission d'enquête, a montré dans le chef de la commission d'enquête sa capacité de puissance et sa capacité de lutter contre les différentes tentatives d'obstruction qui pourraient survenir des différents protagonistes. Alors, j'en viens à mon dernier stade, donc le stade de la clôture de l'enquête parlementaire. Donc, l'enquête parlementaire se clôture traditionnellement par la rédaction d'un rapport et le vote de ce rapport. À ce stade, je pense qu'il est intéressant de constater, au niveau belge, que la plupart des rapports font l'objet d'un certain consensus, donc transpartisan. Et évidemment, il y a plusieurs facteurs d'explication de ce consensus transpartisan, mais j'en ai identifié un qui me semble important de souligner, c'est que dans ces rapports, qui font l'objet d'une certaine unanimité, il n'y a pas en fait de conclusion qui viserait à engager formellement la responsabilité politique d'un ministre. Ces rapports, tout au plus, soulignent la responsabilité d'un ministre de manière informelle, par la bande, et ne vont pas tirer de conclusion de ces constats, ne vont pas tirer de conclusion immédiate de ces constats. Je pense que c'est intéressant de constater cela, parce que si les observations réalisées devaient nécessairement amener à conclure plus explicitement à la responsabilité politique, à la mise en cause de la responsabilité politique d'un ministre, je ne suis pas certain que la majorité et l'opposition pourraient se retrouver sur ce point. Et ce qui est intéressant, c'est que cela correspond en fait très bien au prescrit de la loi belge, qui mandate seulement la commission de formuler, le cas échéant, ses observations quant aux responsabilités que l'enquête révèle. Et donc on voit qu'il y a bel et bien une distinction à faire entre le contrôle politique que la commission d'enquête peut réaliser et les sanctions, les conséquences en termes de sanctions politiques que l'on va pouvoir en tirer. Alors, à titre de conclusion, donc, je voudrais simplement observer, sur base de ce que j'ai dit, que ces différentes phases du processus d'enquête parlementaire permettent de voir que le régime juridique du droit d'enquête fournit certaines conditions qui permettent à la majorité et à l'opposition de se retrouver autour d'une enquête parlementaire. Bien entendu, les virtualités d'émancipation de ce droit d'enquête ne se réduisent pas au régime juridique qui l'encadre, et qu'elles s'expérimentent, elles se concrétisent, elles se transforment au fil du temps, à l'aune du contexte politique, au gré de l'habileté également, évidemment, des députés qui leur donnent vie, et du bon vouloir ces députés. Mais même fragile et réversible, les traits que je viens d'esquisser et qui dessinent cette figure du droit d'enquête version belge me semblent intéressants et révélateurs de ce que l'instrument peut aujourd'hui offrir aux parlementaires et aux différentes assemblées par rapport à ses rapports, à leurs rapports avec l'exécutif, c'est-à-dire un espace de travail autonome et transpartisan au service d'une revitalisation des missions parlementaires. Je vous remercie.
Merci beaucoup, c'est un modèle de ponctualité, c'est même plus que la ponctualité là. Mais très bien, ça laissera plus de temps pour la discussion. Donc on va passer au papier de Gilles Tout-le-Monde, qui porte sur les parlementaires en mission au Parlement français, enfin, du Parlement français précisément.
Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs de me permettre de parler de cette question des parlementaires en mission à la demande du gouvernement, quelque chose qui n'est pas très étudié. L'ordonnance organique du 24 octobre 1958 prévoit justement la possibilité pour le gouvernement de mandater les parlementaires pour une mission temporaire qui ne peut pas durer plus de 6 mois, sinon le parlementaire tombe sous le coup d'une incompatibilité et il sera remplacé dans ce cas-là, dans cette hypothèse, par son suppléant ou son suivantiste. Cette possibilité est désormais codifiée aux articles LO 144 et LO 297 du Code électoral. Et ce phénomène d'émission est donc traité au chapitre des incompatibilités parlementaires. L'incompatibilité débutant au bout des 6 mois. Alors, de ce point de vue, on a pu croire que ces missions temporaires étaient une des nouveautés finalement instituées par la Constitution de 1958, puisqu'on sait que cette Constitution renforce statutairement ou organiquement une forme de séparation entre le gouvernement et le Parlement, puisque, vous le savez, par ailleurs, les ministres ne peuvent cumuler leurs fonctions avec un mandat parlementaire. Mais en réalité, il n'en est absolument rien, puisque ce phénomène des missions temporaires, ou ce mécanisme des missions temporaires, existe depuis une loi du 15 mars 1849. Et cette loi pose d'ailleurs cette possibilité, mais elle pose aussi la limite des 6 mois pour ne pas tomber sous le coup de l'incompatibilité. L'idée sous-jacente de cette limite des 6 mois, vous l'aurez bien compris, c'est d'éviter une forme de fonctionnarisation des parlementaires et donc une soumission aux ordres du gouvernement. Et de ce point de vue, cette limite s'inscrit dans la continuité des incompatibilités parlementaires formulées après la monarchie de Juillet. Mais pour autant, on a constaté dans les républiques précédentes que les missions en question étaient plutôt des missions administratives. Alors, j'en vois quelques-unes, résident général au Maroc, ambassadeur de France, gouverneur général de l'Algérie. Voilà quelques-unes des missions purement administratives qui étaient confiées à des parlementaires. Sous la Ve République, ce genre de mission a plutôt disparu. On en compte encore 7, 4 d'ambassadeurs ou de représentants de la France, 2 de coordination d'un organisme administratif, et puis une de haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. La gratuité des missions parlementaires, des missions temporaires, a été actée par la loi organique du 11 octobre 2013, donc on peut penser que ce genre de mission purement administrative aura disparu ou a disparu complètement. Donc ces missions parlementaires, aujourd'hui, elles ont plutôt une autre fonction sous la Ve République, une fonction manifeste d'expertise. Le parlementaire va apporter son expertise au gouvernement. Ces missions, elles sont devenues très fréquentes. Il faut savoir que de 58 à 73, aucune mission n'a été proposée. Et aujourd'hui, on compte 720 décrets par lesquels le gouvernement confie une mission à un parlementaire ou renouvelle une mission à un parlementaire. Parlementaire national, je ne compte pas ici les parlementaires européens, mais il y a 5 décrets les concernant également. 720 depuis lundi, hein, puisqu'il y en a eu deux autres de nouveau lundi dernier. Alors, pour ces missions, qui sont très nombreuses, finalement, le droit, les juristes s'y intéressent assez peu. Les politistes, à ma connaissance, s'y intéressent également très peu, mais ma connaissance est bien moins importante ici. Il faut dire que la réponse de Pierre Mauroy, interrogé à ce sujet par un parlementaire en 1982, laisse croire qu'il n'y a pas d'intérêt à cette question. Il disait, durant ce délai, le gouvernement dispose de toute latitude pour confier à un parlementaire une mission particulière, quelle qu'en soit la nature. En gros, circuler, il n'y a rien à voir, on fait ce qu'on veut. Or, un nombre aussi important de 720 décrets montre que ça n'est pas le seul besoin d'expertise du gouvernement qui est ici en cause. Ce développement exponentiel traduit en réalité un objectif politique qui est poursuivi par le gouvernement, mais aussi qui peut être recherché par les parlementaires qui sont destinataires de ces missions. Et c'est donc cette signification latente, plus politique, que nous nous proposons d'explorer ici. On peut formuler l'hypothèse que les parlementaires, ces missions parlementaires, sont tout à la fois une illustration de la soumission politique des parlementaires au gouvernement sous la Ve République, mais aussi une véritable stratégie de contournement des parlementaires pour développer leur capacité à contrôler l'action administrative et leur capacité à fabriquer la loi. En effet, que l'on adopte la position du gouvernement ou celle des parlementaires, on voit que ces stratégies sont très différentes, mais finalement qu'elles arrivent à se synthétiser dans le cadre des missions parlementaires, ce qui explique, à mon avis, leur succès. Donc je développerai dans un premier temps, dans un plan à deux parties, je suis désolé, les stratégies gouvernementales et ensuite les stratégies parlementaires. Alors s'agissant des premières, il y a deux grandes idées, contourner le droit positif, qui peut paraître comme trop rigide, et également des stratégies beaucoup plus politiques, ou au sens politicien du terme. Sur le premier point, il faut reconnaître que le code électoral et la Constitution amènent parfois une rigidité importante, c'est d'ailleurs logique, puisque c'est l'un des objets du parlementarisme rationalisé. Et ces missions peuvent apporter une certaine souplesse. Souplesse dans une première hypothèse. Il peut s'agir de contourner l'interdiction du cumul entre les fonctions ministérielles et le mandat parlementaire. Cette incompatibilité qui est posée par l'article 23 de la Constitution est apparue comme une forme de révolution de la Ve République. Et les missions parlementaires la contournent puisque un parlementaire va pendant 6 mois pouvoir travailler pour le gouvernement tout en étant parlementaire, pour et parfois avec le gouvernement, pendant ce délai de 6 mois. Et il faut reconnaître qu'il n'est d'ailleurs pas rare que ces missions parlementaires soient utilisées pour, en réalité, être une sorte d'école du pouvoir, c'est-à-dire tester la capacité du ministre, du parlementaire, à intégrer l'équipe ministérielle. L'hypothèse est assez fréquente. On compte une trentaine de cas depuis 1958 de parlementaires missionnés qui intègrent ensuite le gouvernement. Aussi, ça permet aussi les missions parlementaires de nouer un dialogue entre le gouvernement et les parlementaires que ne permettent pas les dispositions de l'article 23 de la Constitution. Alors, d'autres démocraties ne rencontrent pas ce problème. L'Allemagne, le Royaume-Uni, par exemple, ne connaissent pas une telle rigidité parce qu'il existe des secrétaires d'État parlementaires, et je regarde Damien à cet égard, puisqu'il a écrit à ce sujet. Donc voilà un premier élément de contournement de la rigueur du droit positif. Un deuxième élément, c'est plutôt de contourner le code électoral plus que la Constitution ici. Ce code électoral, il prévoit que un fonctionnaire ne peut pas cumuler ses fonctions avec le mandat parlementaire. L'article LE 142 du code électoral l'interdit. Le fonctionnaire est à ce moment-là placé dans une position de disponibilité désormais. Mais il y a deux stratégies ici qui peuvent être utilisées par le gouvernement pour contourner cette rigidité. Deux stratégies qui vont en sens totalement différent à l'occasion du renouvellement d'une mission. Alors, première stratégie, on va l'imaginer ensemble. Imaginez donc le gouvernement qui confie à un parlementaire une mission pour une durée de 6 mois. Au bout des 6 mois, on informe le président de l'Assemblée en question qu'il ait mis fin à la fonction, à la mission. Et puis, quelques jours plus tard, on renomme le parlementaire pour une nouvelle mission. On contourne ainsi la règle du code électoral. Et le contrôle assez formel opéré par le Conseil d'État sur les décrets confiant une mission à un parlementaire permet, à mon avis, cette hypothèse. Mais il faut reconnaître que cette hypothèse, qui était très fréquente sous les républiques précédentes et très peu utilisée sous la Ve République, j'ai un cas. Un cas, mais qui est quand même assez rocambolesque, Christian Ouchy. Il est désigné par Pierre Mauroy pour une mission temporaire le 8 décembre 1981. Cette mission temporaire, c'est celle de haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Une fonction pourtant très, très pérenne. Bon. Le 2 juin 1982, donc quelques jours avant l'expiration du délai de 6 mois, Pierre Mauroy informe le président de l'Assemblée nationale qu'il ait mis fin à cette fonction. Et 6 jours plus tard, Christian Ouchy se voit confier une nouvelle mission qui est celle de haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, il a juste pris une petite période de vacances. Alors, la manœuvre n'a pas marché parce que l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, a appréhendé ce nouveau décret, non pas comme une nouvelle mission, mais comme un renouvellement de mission. Et donc, Christian Ouchy a été déclaré démissionnaire d'office. La deuxième stratégie, elle va en sens inverse. Imaginons qu'un parlementaire soit dans les tuyaux de l'exécutif pour être nommé à une haute fonction administrative ou à la direction d'un organisme. Dans ces cas-là, l'incompatibilité fait que, normalement, il ne sera pas remplacé par son suppléant, il perd son mandat et il y aura une législative partielle dans cette hypothèse-là. Alors, pour éviter cela, eh bien, la stratégie du gouvernement, c'est un peu plus de 6 mois avant de le désigner pour cette haute fonction administrative, on lui confie une mission, on renouvelle la mission au bout de 6 mois, comme ça il est remplacé par son suppléant, on ne perd pas de siège pour la majorité au sein de l'Assemblée concernée, et on peut ensuite, comme il est remplacé par son suppléant, on peut ensuite le nommer très librement à ses hautes fonctions administratives. Alors cette hypothèse-là, elle n'est pas d'école, elle a joué à 19 reprises sous la Ve République. Le cas le pire, à mon avis, j'en ai plusieurs, mais le cas le pire, c'est celui de Pierre Bédier. Pierre Bédier, il est condamné en mai 2008 par la Cour d'appel à 6 ans d'inéligibilité. Donc il va perdre son mandat. Mais en octobre 2008, François Fillon lui confie une mission. Alors vous allez me dire, comment c'est possible? Ben, tout simplement, il s'est pourvu en cassation et le pourvoi n'est pas suspensif. Il est suspensif de l'appel. Et donc, il fait une mission. Cette mission est renouvelée le 10 avril. Il est remplacé par son suppléant. Et le 22 mai, la Cour de cassation confirme son inéligibilité pour 6 ans. Et comme ça, on n'a pas perdu de siège pour la majorité. Voilà une méthode, vous voyez, bien utile. Alors, j'accélère un petit peu, mais parce que je vois que je suis en retard sur mes prévisions. Il y a une autre raison pour laquelle le gouvernement recourt à cette méthode des parlementaires en mission, c'est vraiment pour instrumentaliser les parlementaires, il faut le dire. Pierre Messmer disait dans sa déclaration de politique générale de 1972 qu'il s'agit par cette technique de mieux associer les parlementaires à l'action du gouvernement. Il fallait sans doute comprendre en fait que le procédé permet de mieux faire comprendre aux parlementaires, et ceux de la majorité surtout, les besoins de l'action gouvernementale. Alors cela transparaît assez nettement des attentes du Premier ministre lorsqu'il confie une mission à un parlementaire. Le décret est accompagné d'une lettre de mission, et on voit que ces lettres de mission sont parfois extrêmement précises, Le Premier ministre attend un résultat très précis. Alors, par ailleurs, il faut reconnaître que confier une mission à un parlementaire constitue une sorte de témoignage d'affection du gouvernement envers le parlementaire et dont il va espérer en retour une certaine bienveillance vis-à-vis de son action. Et de ce point de vue, Édouard Balladur est le premier des premiers ministres à avoir usé de façon massive des missions parlementaires, exclusivement à destination de parlementaires de la majorité, afin de tenter de gagner à sa candidature ceux qui pourraient tenter par la candidature de Jacques Chirac. Et d'ailleurs, par la suite, Alain Juppé va faire exactement la même chose pour recoller les morceaux de la majorité. Alors c'est cette logique qui explique que dans 80% des cas, c'est un parlementaire de la majorité qui est chargé d'une mission temporaire. Alors il peut aussi s'agir de se fluidifier un travail législatif au Sénat. Il y a moins de sénateurs qui sont missionnés, 22% des sénateurs depuis, enfin 22% des missions depuis 1958, mais on constate qu'il y en a beaucoup plus parmi l'opposition, parce que le gouvernement n'a pas justement toujours une majorité suffisante au Sénat. J'en termine avec les stratégies gouvernementales. Il y a aussi des stratégies pour les parlementaires, alors des stratégies individuelles, mais aussi des stratégies collectives pour les parlementaires. À titre individuel, on a vu que ça pouvait être un espoir de responsabilité future pour les parlementaires. Ça peut être aussi, selon l'expression de Jean-Éric Viquel, un lot de consolation. Un lot de consolation après de douloureux sacrifices qui ont dû être faits par le parlementaire. Alors je pense par exemple à Marcel Debarge, le pauvre Marcel Debarge, sacrifié à l'ouverture envers les communistes entre le gouvernement Mauroy 1 et le gouvernement Mauroy 2. Il aura été ministre un petit mois. Eh bien, on lui confie une mission parlementaire pour le consoler. Alors, au-delà, ça constitue, vous le voyez, un honneur pour le parlementaire, auquel il peut être sensible, et ça peut apparaître comme un soutien du gouvernement en sa faveur. Lucette Michaud-Chevry, elle est chargée d'une mission le 27 février 2004, alors qu'elle est candidate aux régionales qui ont lieu un mois plus tard. On voit bien que c'est l'idée d'un soutien carrément politique ici la concernant. Alors cet honneur, le parlementaire va en profiter pour devenir un personnage un peu incontournable sur le sujet, et ça va lui apporter un éclairage qui devient véritablement un projecteur médiatique, à la fois pour son activité nationale, mais aussi pour sa circonscription. Mais il y a aussi des stratégies institutionnelles qui sont latentes, mais je crois qu'elles sont réelles. Ces missions temporaires, elles permettent quand même de contourner la logique de la Ve République et la logique du parlementarisme moderne, hein, si on écoute Boris Mirkine-Gelsevich, selon laquelle c'est le gouvernement qui est législateur, qui doit légiférer. Parce que en rédigeant un rapport, le parlementaire peut espérer que ses conclusions soient reprises dans un projet de loi qui sera inscrit à l'ordre du jour, et ça arrive quand même assez fréquemment. Très récemment, Gérald Darmanin a annoncé, par exemple, que plusieurs réformes fiscales à destination des Français de l'étranger seraient mises en œuvre suite aux propositions du rapport de la députée Anne Genetet sur le sujet. En outre, toujours dans les stratégies institutionnel, par le dialogue que la mission instaure entre le gouvernement et le parlementaire de la majorité, elle contribue à renforcer le lien entre le gouvernement et la majorité. Techniquement, c'est vrai que la majorité pourrait paraître affaiblie. On se dit, le parlementaire, il va être moins présent dans l'hémicycle parce qu'il a sa mission à faire. Mais en réalité, il n'en est rien parce que l'ordonnance du 7 novembre 1958 autorise la délégation de vote des parlementaires en mission. C'est très encadré, mais les parlementaires en mission ont le pouvoir de déléguer leur vote. Et à qui est-il délégué ? Au président du groupe, qui va en user pour renforcer la position commune ou majoritaire du groupe. Alors finalement, le mécanisme des missions temporaires semble plutôt que de fonctionner dans un sens unique de l'instrumentalisation des parlementaires. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a cette instrumentalisation. Mais il produit plutôt un processus, me semble-t-il, gagnant-gagnant. Et dans ces conditions, vouloir supprimer ce mécanisme, comme les sénateurs ont proposé de le faire il y a un peu plus d'un an, apparaît comme un trompe-l'œil. Ça ne permettra pas nécessairement de revaloriser l'institution parlementaire, parce que les parlementaires sont aussi des gagnants de ce mécanisme d'émission temporaire. Alors simplement, il faut reconnaître qu'il y en a des missions temporaires comme de tant d'autres mécanismes politiques ou constitutionnels, ils ne fonctionnent et ne produisent des effets que de la façon dont ils sont exploités. Le droit fournit le cadre et les parlementaires lui donnent la vie. Et comme le disait Guy Carcassonne, d'une manière générale, la tendance est répandue qui consiste, je le cite, à dénoncer des maux institutionnels là où sont avant tout en cause des défaillances du politique. Et c'est bien le problème, c'est surtout des défaillances des parlementaires qui se laissent instrumentaliser dans le cadre d'une mission plutôt que le mécanisme de la mission qu'il faut incriminer. Je vous remercie.